utilise. Ça fait pratiquement 2 ans que cette mesure est en vigueur. C'était avant la guerre de l'Ukraine qu'on l'avait déjà mis en vigueur. Si je compare à d'autres pays européens, on était beaucoup plus sur la balle qu'avant. N'oublions non plus qu'en Belgique, il y a quand même des mécanismes dont on parle peu, mais qui sont automatiques. Compensation de pouvoir d'achat, on a un système d'indexation automatique qu'aucun pays en Europe a, sauf le Luxembourg. Et le Luxembourg a fait des mesures pour l'atténuer un petit peu. Ce que moi je constate, c'est qu'en France, Emmanuel Macron dit, vous négocierez. En Belgique, ce n'est pas une négociation, c'est une compensation qui est automatique et qui, je pense, est justifiée. Mais il ne faut quand même pas sous-estimer que c'est quelque chose qu'on paye et que les entreprises payent aussi. Mais sur le plus fondamental, comment est-ce qu'on se rend moins vulnérable par rapport au prix de l'énergie et par rapport aux fluctuations? D'ailleurs, on a changé la fiscalité de l'énergie. C'était de la TVA, et maintenant, quelque chose qui est en train d'exécuter pour l'adapter vers des axes qui nous donnent plus de possibilités pour le moduler. Il y avait un problème dans les maisons qui sont ou des appartements de location. Ce que je vois, c'est que le gouvernement wallon et le gouvernement flamand ont pris des mesures. On dit que les maisons qui n'ont pas les normes, ils ne peuvent pas indexer. Je trouve l'extrait que vous avez fait passer, je trouve ça un peu facile. Parce que d'abord, ça nie toutes les choses qui ont été faites. Et deuxièmement, ça dépasse un peu quel était l'objectif. L'objectif, c'était de mettre un peu tous les nez dans la même direction. Ce que moi, je constate, c'est que dans tous les gouvernements, on est en train de prendre toutes ces mesures qui vont nous rendre moins vulnérables, qui vont renforcer les gens dans leur capacité pour le faire.
Mais ça va aller quand même plus loin, Alexandre de Croo, parce que je prends un exemple concret, l'isolation des bâtiments. On sait que ça, typiquement, un des grands enjeux, c'est le chauffage, pour l'avenir, de devoir moins consommer pour chauffer les maisons, les appartements, etc. Est-ce que vous, en tant que capitaine de la Team Belgium, c'est un peu le rôle que vous vous donnez en tant que Premier ministre, et vous avez beaucoup communiqué là-dessus, notamment dans la crise Covid. Est-ce que ce n'est pas le moment de lancer, par exemple, un grand plan au niveau belge sur cet enjeu-là? Alors, on sait que c'est éclaté entre les différents niveaux de pouvoir. Il y a des leviers fiscaux éventuellement au fédéral.
Les leviers existent.
Oui, mais est-ce que là, on ne doit pas avoir une mobilisation du type de ce qu'on a organisé dans la crise Covid, je veux dire, où là, maintenant, on se met tous ensemble autour d'une table avec un vrai plan qui imagine aussi comment on va former peut-être les professionnels de demain qui vont installer ça, avec des mesures de tiers investisseurs pour tous ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui se permettre d'investir eux-mêmes dans l'isolation de leur logement. Est-ce qu'il n'y a pas là un message fort à envoyer en disant tous ensemble, on va se mettre autour d'une table et on va avancer là-dessus?
Mais honnêtement, d'abord, ces mesures existent. Et moi, j'ai
bloqué parce. Elles sont un peu plic-ploc, éparses, dans différents niveaux de pouvoir. Ce n'est pas toujours très, très lisible pour les citoyens.
Non, mais ce n'est pas parce qu'on a des mesures qui sont différentes en Flandre qu'en Wallonie qu'elles sont plic-ploc. Pour quelqu'un qui habite en Wallonie, il y a des mesures qui existent et qui sont claires. Quelqu'un qui habite en Flandre, elles existent. Ce n'est pas exactement les mêmes. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement les mêmes mesures. Moi, je me mets dans un contexte fédérateur quand c'est nécessaire de le faire. En Covid, c'était nécessaire de le faire parce que dans les compétences, ce n'était pas clair. Et si je n'intervenais pas, on ne menait pas une politique qui est uniforme. Mais ici, on est dans des politiques qui sont purement dans les régions. Moi, j'aime bien que la Belgique fonctionne bien, mais ça ne veut pas dire que je me mets à la place des ministres-présidents. Je ne me mets pas à la place des ministres d'énergie régionaux. C'est leur compétence et ils le font plutôt bien. Ce que vous dites, c'est oui, mais vous dites plip-plop parce que c'est pas la même chose en Flandre et en Wallonie. C'est pas nécessaire que ce soit la même chose. Moi, j'interviens quand j'ai de la valeur ajoutée. Là, honnêtement, je vois pas beaucoup quelle serait ma valeur ajoutée. Moi, je vois que les gouvernements régionaux sont conscients des défis. Ils le font. Donc on a, je trouve, en Belgique, tendance, quand même trop souvent, je trouve, à dire si ça s'organise pas au niveau fédéral, ça veut dire que ce n'est pas important. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je pense qu'entre-temps, les régions se sont développées dans leurs compétences et je trouve qu'elles le font plutôt bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire plus, mais constatons aussi que nos ressources et notre résilience n'est pas indéfinie. On sort d'une crise qui est extrêmement difficile. On a des secteurs qui ont été gravement touchés, qui maintenant sont en train de se réorienter. Je comprends l'impatience. Et dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir faire plus aussi. Mais on est dans la réalité. Et la réalité, elle est souvent humaine et ça demande quand même beaucoup d'adaptation.
Mais c'est quoi alors votre message aux plus vulnérables? Ceux qui, justement, hein, sont ceux que reçoit Céline Niwenhuis dans les différents services sociaux dont elle coordonne l'action et qui, aujourd'hui, eux, ne peuvent pas, à un moment donné, ouvrir leur portefeuille pour investir, par exemple, dans l'isolation de leur logement, tout simplement parce que, bah, pour des primes...
Je m'excuse, mais ce que vous dites n'est pas vrai. D'abord, ils ont accès à un tarif social qui est quand même
ça, c'est
très significatif. Oui, mais donc c'est quand même le problème de maintenant, c'est les factures, et on est d'une manière très significative là-dedans. Des moyens, des prêts... qui sont sans intérêt, des primes, etc., pour des gens qui ont peu de moyens pour l'isoler, ça existe. Ça existe en Flandre, ça existe en Bruxelles, ça existe en Wallonie. Alors, est-ce qu'il y a peut-être des difficultés pour mieux orienter les gens vers ces solutions? Ça, je suis tout à fait conscient de cela. Mais c'est pour ça que des services sociaux existent, naturellement. Je pense que s'il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est que souvent, on vit dans une société extrêmement complexe et extrêmement chaotique, où les gens sont inondés par des messages dans tous les sens et perdent un peu la direction dans laquelle ils doivent aller. Et ça, c'est un effort pour nous tous. Et c'est là qu'on peut montrer que la politique est près des gens et essaye d'aider et est vraiment dans le niveau personnel. Là, il y a un vrai défi, ça c'est vrai. Mais dire que ces mesures n'existent pas dans certains parties du pays, je ne suis pas d'accord. Ça existe, mais je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire à mieux aider les gens à naviguer toutes les possibilités qui existent.
Et ça, par exemple, c'est un autre grand chantier du gouvernement fédéral, et c'est notamment connecté à cet enjeu sur l'énergie, mais pas seulement, l'enjeu de la fiscalité. Cette idée aujourd'hui que beaucoup de gens ne comprennent plus, en fait, les impôts qu'ils payent, à quoi ça sert exactement, qu'ils ne voient plus toujours le sens du paiement de l'impôt, parce qu'on a une fiscalité extrêmement complexe, avec à beaucoup de niveaux des niches, avec la possibilité pour ceux qui s'y retrouvent de pouvoir mieux optimiser leur impôt, pour d'autres qui n'ont pas le regard là-dessus, la formation ou l'aide d'un comptable, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que ça aussi, c'est pas un grand enjeu si on veut que tout le monde puisse être égal, finalement, dans son rapport à l'État?
Oui, c'est clair que beaucoup de choses sont devenues très complexes dans nos sociétés. Nos vies sont extrêmement complexes, notre tissu social est très complexe, et la fiscalité est devenue très complexe aussi. C'est vrai que l'idée que quelqu'un qui a des très bons consultants aurait une situation fiscale différente de quelqu'un qui ne les a pas, est quelque chose de fondamentalement injuste. C'est pour ça d'ailleurs que Vincent van Petegem viendra avec une proposition de réforme fiscale avec un objectif. C'est que les gens qui travaillent, les gens qui veulent avancer, ont plus de net, ont plus de moyens. Mais une partie de cette complexité reflète la complexité de nos vies. Hein. Et sur papier, on dit souvent, oui, mais toutes ces niches fiscales, il faut les enlever. Et en même temps, le moment où on touche, c'est le drame. C'est aussi une certaine ambiguïté schizophrénie que la presse a. Hein. La presse va souvent dire, mais vous devez faire des réformes qui vont beaucoup plus loin. Le moment où on le fait, il y a une certaine niche fiscale qui n'existe plus. On va tout de suite mettre le focus sur cette niche-là en disant « mais c'est scandaleux, ces gens avaient un avantage, ils ont perdu leur avantage ». Je pense qu'on doit un peu faire un pas en arrière. Je pense que des réformes fiscales, il faut le faire pas par pas. Il faut bien les étaler dans le temps pour que des gens puissent aussi changer leur comportement. Mais à court terme, faire un premier pas qui aide les gens qui travaillent à avoir plus de net, oui, ça c'est clair que voilà, dans les mois qui viennent, on regardera de quelle manière on peut faire une première étape.
Ceci dit, c'est intéressant ce que vous pointez là, Alexandre Decroux, parce que vous dites c'est extrêmement difficile de toucher à ce mécano complexe, notamment parce que quand on va revoir une niche fiscale, on sait qu'on va avoir des oppositions, des critiques là-dessus. Tout à l'heure, vous nous disiez aussi sur l'enjeu climatique, c'est difficile d'agir tout seul en tant que petite Belgique, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi au niveau international. Vous disiez aussi dans la maison Belgique, ben vous, le fédéral, vous ne pouvez pas tout, évidemment, puisqu'il y a toute une série de leviers qui sont aux autres niveaux de pouvoir, les régions, les communautés. Est-ce que vous comprenez du coup que pour beaucoup de Belges aujourd'hui, il y a cette impression d'une forme d'impuissance politique, de se dire au fond, ben, ça avance un petit peu, ou bien on corrige, on compense, on gère les crises, etc. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, quels que soient ceux qu'on met au pouvoir, parce qu'en plus c'est dans des coalitions de plus en plus larges, on a toujours un peu la même politique qui est menée, et que ça nuise à la confiance.
Mais est-ce que... Il faudrait peut-être un peu regarder dans la position dans laquelle la Belgique se trouve. La crise Covid, on l'a clairement traversée mieux que beaucoup d'autres pays. Le système de soins de santé, on n'a jamais dû dire non à quelqu'un. Regardez un peu dans les pays autour de nous. C'était une situation qui était quand même bien différente de cela. On sort d'une période de crise. Durant ces crises, qu'est-ce que j'ai vu ? C'est que le monde entier nous envie notre secteur pharmaceutique. Le monde entier dit ouais, « c'est incroyable ce que vous avez en Belgique ». En même temps, il y a une crise dans ce qu'on appelle les semi-conducteurs, les chips. Le monde entier dit ouais, « c'est incroyable ce que vous avez en Belgique avec vos centres de recherche ». Maintenant, crise énergétique, le monde entier nous dit ouais, « la Belgique, c'est incroyable, c'est un nœud d'approvisionnement d'énergie ». Vous n'allez pas avoir de problème d'approvisionnement parce que vous avez fait plein de choix. Tiens, dans les éoliennes en mer, c'est assez incroyable ce que la Belgique a. On a tendance à toujours regarder ce qui est négatif dans notre pays. Moi, je n'ai pas de problème de mettre le doigt sur les choses qu'on peut faire mieux. Mais comparez un peu à d'autres pays. Et dans la discussion aujourd'hui, dans la discussion de pouvoir d'achat, toutes les analyses montrent que les citoyens belges sont les mieux protégés de tout le continent européen par rapport au pouvoir d'achat. Tout ça, oui, c'est le résultat de se parler, d'écouter, de comprendre que ma solution, elle est peut-être pas mal, mais quand j'écoute quelqu'un d'autre, que ma solution, elle peut être améliorée, et de construire un consensus, et de trouver un équilibre. Et je sais que certains diront « oui, mais ça prend du temps et c'est compliqué ». Mais c'est comme ça que la société fonctionne.
Et pourquoi la confiance est si basse alors, Alexandre De Croo ? C'est les citoyens qui ne comprennent plus qu'aujourd'hui, il y a cette nécessité au niveau politique.
Mais
ce n'est pas la politique qui marche moins bien, c'est les citoyens qui comprennent moins bien les enjeux de gestion politique.
Mais on est dans un moment de polycrise qui est du jamais vu. C'est du jamais vu qu'en même temps... On a une pandémie, on a une guerre sur le continent européen, on a une crise énergétique. Je veux dire, la combinaison de choses auxquelles on est exposé, c'est du jamais vu. Alors c'est possible que certains disent, je ne suis pas encore convaincu, mais certains disent c'est la nouvelle réalité. Ce sera probablement comme ça. Et d'autres disent, oui, mais disaient avant ces crises, oui, il y a quand même d'autres modèles. Parce que ce que moi je viens d'expliquer, c'est le modèle démocratique, oui. Ça prend du temps, on s'écoute, on a des idées, on se discute avec des mots, pas avec des armes, et on se respecte, et on essaye de trouver, de construire des consensus, et on gère notre société de cette manière-là. Je sais qu'il y en avait d'autres qui disaient « oui, mais il y a quand même d'autres modèles ». Vous savez, en Chine, en Russie, c'était quand même beaucoup mieux. C'est des problèmes complexes, mais il y a un leader fort, et le leader fort, il décide, et ça avance. Les pays avec des leaders forts, ça mène à des sociétés faibles. Et ça, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est des sociétés résilientes, des sociétés fortes. Et des sociétés fortes, ça se construit du bas vers le haut et pas du haut vers le bas. Parce que ces sociétés avec des leaders forts, moi je veux bien comparer avec la Russie. Je veux bien comparer. C'est un pays où l'expectation de vie est 10 années plus bas qu'ici, où il y a pratiquement 1 million de Russes qui ont essayé de fuir... De fuir leur pays, ou quand on a une opinion différente, on a le choix. Ou bien on disparaît, ou bien on est dans une prison. Moi, je veux bien comparer avec la Chine. Vous voyez, la pandémie, certains disaient, oh, regardez, en Chine, ils gèrent bien la pandémie. Les lockdowns, c'est toujours le cas aujourd'hui en Chine. Et donc, oui, on a comme dans l'Occident tendance à se douter sur nous-mêmes. Mais regardez un peu comment on fait. Oui, à première vue, la démocratie, c'est quelque chose... qui est plus lent. Oui, Moi, je veux bien faire la comparaison. Et je veux bien faire la comparaison avec les autres. Et je veux bien comparer quelle est la situation de vie en Belgique, les libertés que nous avons, les possibilités de s'exprimer, les possibilités en Belgique de dire « je ne suis pas d'accord ». Essayer de le faire dans d'autres parties du monde avec, oui, cette idée que c'est plus simple et c'est plus fort. Et ça existe en Belgique aussi. Il y en a en Belgique aussi qui disent « il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça ». Mais ils ont réalisé quoi, ceux qui disent ça pour l'instant? C'est un peu les partis que, vous savez, quand la crise entre l'Ukraine et la Russie a commencé, nous, on s'occupait de la population. Et on travaillait pour trouver des solutions pour la population. En même temps, ceux-là, ils étaient en train de nettoyer leur Facebook pour enlever tous les liens qu'ils avaient avec la Russie. Donc il faut un peu bien regarder la comparaison. Et il faut oser défendre notre modèle démocratique. Il faut oser parfois dire, c'est complexe. Ça prendra un peu de temps, il n'y a pas de solution magique. Et le pire qu'on puisse faire aujourd'hui, une des raisons pourquoi parfois la confiance est basse, c'est qu'il y en a qui se contentent de faire des fausses promesses. Et ça c'est le plus grave aujourd'hui, c'est de faire des fausses promesses et de dire il y a des solutions faciles par rapport à des situations compliquées. Je pense que c'est pas faire un service à notre population.
Un autre enjeu sur lequel j'avais envie d'entendre Alexander De Croo, c'est sa vision du marché en tant que libéral. Et pour le titiller un peu, je voulais lui faire entendre les mots de Jean-Pierre Ancel. C'était dans l'épisode 2 de ce podcast. L'ancien patron d'Engie Electrabel estimait qu'au tournant des années 2000, la Commission européenne et les États membres de l'Union, dont la Belgique d'ailleurs, avaient fait une erreur historique en confiant l'électricité et le gaz aux pures lois du marché. Voici ce que disait d'ailleurs précisément Jean-Pierre Ancel.
La Commission a commencé à prôner cette manière de voir nouvelle, sur base essentiellement d'une idéologie néolibérale qui démarrait à ce moment-là, sur base du fameux consensus de Washington, où le FMI, l'OMC, la Banque mondiale sont tous convenus que le marché était capable, seul, de résoudre tout, tout le temps et pour tout le monde. La Commission et les services de la Commission ont suivi. Ils ont vendu le concept aux États. Les États l'ont appliqué, plus ou moins avec enthousiasme. La France moins, l'Allemagne un peu, la Belgique avec grand enthousiasme. Le gouvernement de l'époque, celui de M. Verhofstadt, a été un grand défenseur de cette manière de voir, tout par le marché. Bon. Incidemment d'ailleurs, les partis qui étaient au pouvoir à l'époque sont à peu près les mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce qui parfois me fait sourire quand j'entends certaines déclarations. Mais, évidemment, vous allez me dire, il y a 22 ans de tout ça.
Alors, là-dessus, Alexander De Croo, est-ce que ça a été une erreur à l'époque du gouvernement? C'était l'arc-en-ciel, hein, dirigé par Guy Verhofstadt, qui était ministre libéral flamand, comme vous l'êtes aujourd'hui, d'avoir confié à ce point au marché l'enjeu, par exemple, de l'électricité et du gaz.
Si on regarde maintenant, dans une période de crise, c'est clair que vous avez dit au début que moi je suis quelqu'un qui croit au marché. Oui, je crois au marché, mais pour moi ce n'est pas une religion. Si le marché ne fonctionne pas, il faut intervenir. D'ailleurs, intervenir dans le marché, dans les marchés financiers, c'est quelque chose qu'on fait d'une manière assez régulière. Les marchés, quand on a eu la crise financière, ben, on a intervenu et on l'a fait pour éviter que ça détruise notre société, d'autres marchés. Dans l'énergie, ben, ça fait depuis mars. J'étais un des premiers pays à dire qu'il faut intervenir. Et je sais que beaucoup de mes collègues européens ont dit « Mais vous êtes libéral, qu'est-ce que vous venez me raconter là maintenant ?» Bah, 6 mois plus tard, je constate que pratiquement tous les pays européens, entre-temps, sont convaincus et on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Seul regret que j'ai, c'est qu'en mars, je ne suis pas parvenu à convaincre tout le monde à ce moment-là. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que face à des comportements qui ne sont pas rationnels, comme l'attaque de la Russie, le marché pur n'est pas assez régulé. Oui, ça c'est clair. Et le fait qu'on intervienne, moi je le défends, parce que moi, je veux que ça fonctionne pour les gens, et le moment où je vois que ça ne fonctionne pas pour les gens, bah, il faut intervenir. Alors, aller maintenant dire que 22 ans, on a eu quand même des périodes avec des prix d'énergie bas, avec énormément d'innovation, avec beaucoup de concurrence, qui a aidé nos citoyens, allait dire bah, « tout ça, c'était une erreur », je pense que ça, c'est faux. Mais c'est clair que dans cette période-ci, on apprend énormément de choses. Et je suis convaincu, par exemple, que dans les marchés financiers, il y a maintenant des régulateurs qui sont très forts, qui interviennent quand il y a un risque dans les marchés financiers. Pourquoi est-ce qu'on a des régulateurs tellement forts ? Bah, parce qu'on sait quel peut être l'impact d'un crash financier. Je pense que dans 10 ans, on dira, on aurait compris quel peut être l'impact d'un crash énergétique. Et donc, il faut des régulateurs qui sont beaucoup plus forts à pouvoir intervenir. Je pense aussi qu'on est dans un autre monde. Vous savez, les années 90, c'était le moment où on disait, ben voilà, on va vers un monde où il n'y a plus de géopolitique, où il n'y a plus d'enjeux entre différents blocs dans le monde. On a eu cette période. Aujourd'hui, on est dans un autre monde. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de secteurs économiques sont devenus hautement géopolitiques, et clairement, l'énergie en est un autre. Alors, est-ce que aller dire, ça veut dire que le marché n'a plus aucun rôle à jouer là-dedans ? Ça veut dire qu'on doit se renfermer sur nous-mêmes, on ne doit plus faire du commerce avec le reste du monde ? Je pense que c'est faux, ce serait faux. Mais, clairement, d'une manière moins naïve, d'une manière plus diversifiée, et pour moi, et ça je le répète, pour moi, ce n'est pas une religion. Je veux que ça fonctionne pour nos populations, ça mène à des prix bas, ça mène à l'innovation, ça mène à avoir l'accessibilité à des nouvelles technologies. Et là, qu'on doit corriger, bah oui, c'est clair qu'on doit corriger.
Mais c'est l'ère de la re-régulation, quelque part, Alexandre De Croo. On a eu un courant néolibéral qui a plutôt promu l'idée que plus on laissait le marché jouer son libre jeu, mieux ça allait aller, qui avait tendance à diminuer l'impact des États pour laisser le libre marché agir. On est dans un